Imaginons la scène juste un instant. On est en plein mois décembre 1941. La machine de guerre allemande, genre la plus martèle et rationalisée d'Europe, envoie ses soldats affronter l'hiver soviétique avec, accroche-toi bien, une simple écharpe et une paire de gants en plus.
Ouais, c'est complètement fou quand on y pense.
Mais pourquoi une absurdité logistique pareille? C'est ça la question. C'était une pénurie, tu penses?
Bah, pas du tout, en fait.
Exactement. Le haut commandement a pris cette décision parce qu'il basait sa stratégie sur une théorie pseudo-scientifique qui disait que l'univers est littéralement fait de glace géante.
De la glace géante, oui. C'est lunaire.
Comment un délire mystique de cette taille a pu devenir une vérité d'État? C'est le cœur de notre analyse aujourd'hui. On plonge dans une grosse pile de documents.
Ouais. On a des notes d'un auteur pour son prochain épilogue, des analyses rhétoriques hyper récentes et ses fameuses archives historiques.
Et le but de notre exploration, c'est vraiment de démonter le moteur de la manipulation, de comprendre comment des idées inconcevables ou super dangereuses au départ finissent par s'imposer comme la réalité, quoi.
C'est ça, que ce soit des icebergs dans l'espace, des tactiques médiatiques de milliardaires ou des implants cérébraux qu'on nous vend comme des simples pilules.
Quel programme !
Ouais, intellectuellement, c'est vertigineux. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose un cadre très clair vu les documents qu'on traite.
C'est sûr, vaut mieux préciser.
On va décortiquer des stratégies de manipulation qui touchent à l'extrême droite, aux GAFAM, à des sujets géopolitiques ultra polarisants. Donc je précise bien formellement que notre démarche n'est en aucun cas de cautionner ou de prendre parti pour ces idées, qu'elles soient de gauche, de droite ou d'ailleurs.
Absolument.
Nous nous contentons de rapporter et de décortiquer les mécanismes décrits dans les documents sources, en toute impartialité. On ouvre le capot, on regarde la mécanique et c'est tout.
Voilà, le cadre est posé. C'est super important. Et du coup, le concept de base qui revient dans nos sources, c'est la fameuse fenêtre d'Overton.
Oui, le périmètre des idées jugées acceptables dans le débat public à un instant T.
C'est ça. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est la brutalité de la méthode. Genre la stratégie de Donald Trump. Moi, j'avais l'image du politicien qui teste l'eau avec le bout du pied.
Ah ben non, lui, il jette un énorme pari dedans, carrément.
Ouais, quand il dit qu'il veut acheter le Groenland ou transformer Gaza en Riviera, sur le coup, tout le monde se dit qu'il est en roue libre.
Sauf que penser ça, c'est vraiment tomber dans le piège.
Ah bon ?
Bah ouais, c'est passer à côté de l'ingénierie du truc. Le but de ces propositions outrancières, c'est absolument pas de faire adopter l'idée initiale.
Personne préparait les contrats pour le Groenland, quoi.
Exactement. L'objectif, c'est de recalibrer les normes sociales avec une onde de choc. En balançant un truc aussi absurde, tu obliges tout le monde à se positionner par rapport à ça.
Et le cerveau s'habitue.
C'est le principe d'accoutumance par la répétition, ouais. On a une capacité d'indignation qui est limitée. Si on te bombarde d'énormités tous les jours, bah l'anormal devient le bruit de fond.
Attends, je vais tester une image, dis-moi si ça marche. C'est comme un thermostat en fait.
Vas-y, je t'écoute.
Imagine, on règle le chauffage d'une pièce d'un coup à 45 degrés.
Ah oui, l'enfer.
Tout le monde suffoque, tout le monde hurle au scandale. Et là, magnanime, tu le redescends à 35 degrés.
Et les gens sont soulagés.
Ouais, tout le monde trouve ça presque confortable. Sauf qu'à la base, 35 degrés, c'était déjà invivable.
C'est une super analogie, le point de référence a bougé à cause des 45 degrés initiaux.
Et du coup, ça marche aussi pour l'imagerie visuelle, d'après les sources.
Ouais, c'est pas que des discours, l'analyse parle du même Pépé la grenouille.
Ah oui, le truc d'Internet, là.
Voilà, à la base, c'est un symbole ultra niché de l'extrême droite. La méthode Trump, ça a été de le relayer en boucle. On demande pas aux gens de comprendre l'idéologie derrière au début.
Juste de s'y habituer.
C'est ça, la banalisation visuelle. Les opposants s'épuisent à dénoncer le même et le public finit par se dire « Oh, c'est juste le folklore d'Internet. L'indicible rentre par la porte du banal. »
C'est dingue. Mais ce qui me frappe en lisant la suite, c'est que ce thermostat politique, c'est pas qu'un truc américain avec une personnalité volcanique.
Non, en France, c'est devenu une vraie industrie.
C'est clair. Les documents parlent de l'empire de Vincent Bolloré de manière très clinique. Genre CNews, C8, Europe 1, le JDD.
Sans oublier l'édition avec Fayard.
Ouais. Et l'objectif affiché, c'est carrément de faire la jonction entre la droite traditionnelle et l'extrême droite.
C'est là la différence avec les États-Unis. En France, c'est pas juste un instant politique. C'est une ingénierie structurelle lourde. On crée un écosystème fermé pour mener une bataille culturelle.
Et c'est là qu'intervient Éric Zemmour, non ?
Exactement. Il est analysé comme l'incarnation vivante de la fenêtre d'Overton. Le brise-glace idéologique.
Le fameux réglage à 45 degrés, du coup ?
Voilà. Quand il tient des propos ultra-violents sur les mineurs isolés ou sur l'islam, il fait exploser le thermomètre.
Mais le plus cynique, c'est que c'est même pas lui qui en profite au final.
Bah non. Par effet de contraste, c'est Marine Le Pen qui encaisse les dividendes.
C'est ça qui est fou. À côté de propos aussi extrêmes, sa propre rhétorique à elle paraît soudainement super lissée.
Les analystes disent même qu'elle acquiert une image presque maternelle, tu vois.
C'est présidentiel en tout cas. Et il y a l'exemple du grand remplacement aussi.
Oui, historiquement, c'était une théorie complotiste reléguée aux marges absolues. Et là, on lui donne un temps d'antenne industriel pour l'imposer au centre de la table.
Sauf que les autres politiques vont pas forcément utiliser le terme exact.
Non, la manœuvre est plus subtile. Une fois que c'est au centre, ça passe par des variations sémantiques.
Genre le remplacement de nos mœurs.
Exactement. Le mot toxique du départ a fait le sale boulot de déblayage, quoi.
Et comment ils contournent les règles de pluralisme avec l'ARCOM, d'ailleurs ? C'est machiavélique.
Ah, bah ils inondent l'antenne avec des faits divers et des thèmes d'insécurité aux heures de grande écoute.
Et pour les opposants ?
Pour respecter les quotas légaux de temps de parole, ils diffusent les interventions de l'opposition au beau milieu de la nuit.
En pleine nuit ?
D'un point de vue administratif, ils sont dans les clous. Mais d'un point de vue cognitif, l'impact de la contradiction est nul.
Attends, je fais un pas de côté là. Quand on parle d'humaniser les politiques via des émissions de divertissement, genre Cyril Hanouna, est-ce qu'on surinterprète pas un peu ?
Tu penses à la course à l'audimat ?
Bah ouais. Le clash, le buzz, c'est juste le carburant classique de la télé pour vendre du temps de cerveau disponible, non ? Faut-il y voir un grand projet idéologique ?
C'est l'argument qu'on entend souvent, mais les textes démontrent vraiment l'inverse.
Vraiment ?
Ouais, il y a la primauté du projet idéologique sur la rentabilité. Bolloré est décrit comme un faiseur de roi, avec des convictions culturelles profondes.
Donc il s'en fiche de perdre de l'argent ?
Sur certaines chaînes, oui. Tant que l'hégémonie culturelle progresse et que le cordon sanitaire avec l'extrême droite s'effondre, c'est gagné pour eux.
Ça fait froid dans le dos. Et ce qui me fascine avec notre troisième bloc de documents, c'est que cette ingénierie de la réalité, elle touche aussi la technologie.
Les fameux GAFAM de la Silicon Valley.
Voilà. Mais eux, ils inversent la méthode. Ils cassent pas la fenêtre avec fracas, ils la font glisser dans le silence total, sous couvert de rationalité. C'est le solutionnisme.
Le contraste est super intéressant. La politique joue sur l'émotion, la tech joue sur l'anesthésie.
L'anesthésie politique, ouais.
Le but, c'est de redéfinir le citoyen, qui a des droits et une voix, pour en faire un simple utilisateur qui n'a que des besoins à satisfaire.
L'exemple de Google dans le texte est génial pour ça. Quand ils ont lancé l'algorithme PageRank...
Ah oui, la prestigitation sémantique.
C'est ça. Ils disaient que les pages web allaient voter, élire le meilleur résultat.
Vocabulaire très démocratique, du coup.
Mais oui, et aujourd'hui, personne remet en question les premiers liens Google parce qu'on a l'impression que c'est une vérité objective élue, alors que c'est juste de l'optimisation commerciale et des enchères.
Et en utilisant ce lexique démocratique, tu désamorces toute critique. Tu vas pas manifester contre une mathématique pure ou un truc élu.
Et là où ça donne le vertige, c'est quand on aborde le transhumanisme avec les leaders de l'IA. Ils ont une stratégie qui s'appelle le cheval de Troie médical.
Rien que le nom, ça annonce la couleur.
Grave. S'ils arrivent en disant « on va vous mettre des puces dans le cerveau pour faire de vous des cyborgs », tout le monde refuse en bloc.
La fenêtre d'Overton explose, c'est clair.
Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent ça comme une réparation, genre soigner Alzheimer ou faire remarcher des personnes paralysées.
Et le piège moral se referme direct.
Bah oui, qui va s'opposer à la guérison de handicap aussi lourd ?
Personne. L'industrie utilise cette noblesse médicale pour faire accepter l'hybridation homme-machine. Et une fois le tabou brisé, c'est la matrice des métamorphoses.
Le fameux glissement mécanique.
Ouais, on passe de la réparation du corps malade à l'optimisation du corps sain. Et après, fatalement, l'augmentation cognitive et le fantasme de l'immortalité.
Alors attends, je me fais l'avocat du diable encore. Est-ce qu'on verse pas dans la paranoïa technophobe ? Vouloir éradiquer Alzheimer, c'est merveilleux. C'est pas forcément un complot transhumaniste secret.
C'est une super question. Et les notes de l'auteur nuancent bien ça. Il dit pas que la recherche médicale est un complot.
D'accord.
Ce qu'il montre, c'est l'idéologie assumée par ces élites tech. La dimension eschatologique, tu vois.
La fin des temps et tout ça.
Exactement. Pour eux, la technologie a remplacé la religion. Le but caché, ou même assumé parfois, c'est de vaincre la condition humaine et surtout la mort.
Donc c'est pas de la paranoïa ?
Non. C'est juste lire ce qu'ils écrivent et financent pendant qu'ils décident, seuls et sans aucun mandat, de l'avenir de notre espèce.
Purée. Donc, le curseur du réel bouge tout le temps. Mais que se passe-t-il quand l'irrationnel l'emporte totalement ? Ça nous ramène aux nazis et à notre fameuse histoire de glace du début.
La doctrine de la glace éternelle, la Weltheislehrer, c'est l'exemple parfait de la réalité alternative devenue institution.
Inventée par un ingénieur autrichien, Hans Herbiger.
Ouais, sans aucune donnée scientifique, juste une illumination. L'univers serait un combat entre des soleils de feu et des blocs de glace géants.
Il disait que la Voie lactée, c'était de la glace, et que des lunes glacées s'étaient déjà écrasées sur Terre. C'est un mauvais scénario de science-fiction, quoi.
Totalement. Mais Hitler et Himmler ont adoré.
Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Une machine industrielle comme l'Allemagne nazie qui gobe ça?
Parce que la science classique rationnelle leur posait un problème politique. La physique théorique, avec des gens comme Einstein, était qualifiée de science juive et sans âme.
Ah, d'accord.
La doctrine de la glace, ça collait à leur idéologie. C'était épique, mystique, c'est devenu la science arienne officielle. Himmler a même créé un département météo basé là-dessus au sein des SS.
C'est ce qui m'a inspiré, mon analogie, là. C'est comme si tu construisais le sous-marin le plus perfectionné du monde et que tu confiais la navigation à un astrologue qui lit dans les feuilles de thé.
C'est exactement ça. Une dissonance cognitive monumentale. Et ça se pécache dans la réalité.
L'hiver 41.
Ouais, l'opération Barbarossa. Les météorologues nazis, avec leurs éphémérides de glace, avaient prévu un hiver doux.
Et Hitler pensait que le feu spirituel de son armée allait faire fondre les obstacles.
Donc on les envoie sans équipement. Et là, moins 40 degrés en décembre.
Les moteurs des chars qui gèlent, le carnage de Stalingrad. La science rationnelle a gagné contre le mysticisme par le sang, finalement.
C'est ça. Quand tu arraches la fenêtre d'Overton de la réalité rationnelle, voilà le résultat. Et c'est justement cette confrontation avec le réel que l'auteur aborde dans son épilogue.
Oui, comment on survit psychologiquement à ça aujourd'hui? Surtout la jeune génération?
Une génération très lucide, mais désabusée.
Ils ont capté que les dés étaient pipés, quoi. Que ce monde politique ou tech ne tient pas la route. Mais ils cherchent des manières de se connecter.
Et pour comprendre ce besoin de sens, l'auteur utilise les travaux de Powells et Bergier.
Sur les théories du complot?
Oui. Au lieu de mépriser ça, il dit que c'est de l'autodéfense psychologique. Des mythes modernes pour rationaliser un monde trop complexe.
Et ça explique l'alliance entre Trump et les évangéliques américains. C'est pas juste un troc politique, c'est messianique. Les gens sont tellement angoissés qu'ils embrassent n'importe quel récit protecteur.
C'est le symptôme d'une énorme crise de sens. Et face à ça, l'auteur fait un choix littéraire fort pour conclure.
Ah oui, il passe à la première personne au « je » et au « nous » pour le rêve de Sakura.
Voilà. Comme acte de résistance, retrouver une vulnérabilité et un dialogue intérieur sincère.
Ça me fait penser. Est-ce que chaque génération croit vivre le point de bascule ultime? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, avec la tech, le climat, c'est vraiment une urgence inédite?
L'hypothèse de l'inédit se défend carrément. La guerre pour le réel est éternelle, certes.
Les nazis l'ont prouvé.
Mais ce qui a muté, c'est l'échelle industrielle, la vitesse des algorithmes. Le thermomètre de l'acceptable est ajusté en temps réel, dans nos poches, sur nos écrans, et bientôt peut-être dans notre cortex.
C'est pour ça que cette autopsie est vitale. On a vu comment ils font glisser le cadre. Mais ma pensée finale, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la vraie question n'est pas de savoir où la fenêtre va glisser demain. La vraie question, c'est à quel moment le public, et surtout cette jeunesse lucide, décidera de simplement casser le mur autour de la fenêtre pour respirer l'air libre d'une réalité qu'ils auront eux-mêmes choisie.
C'est une excellente question pour conclure.
Gardez l'esprit critique ouvert, c'est la seule boussole qui ne tombe jamais en panne. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les sources.